Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri, Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par les violences en Centrafrique. Un patron du football centrafricain et ex-milicien arrêté à la mi-décembre en France a été transféré ce mercredi à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Aujourd'hui, le 23 janvier 2019, M. Patrice Edouard Ngaïsona a été transféré à la Cour pénale à La Haye aux Pays-Bas par les autorités de la République française. C'est ce qu'annonce la CPI, la Cour pénale internationale, dans un communiqué. République démocratique du Congo maintenant, la prestation de serment du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui va prendre le relais du chef de l'État sortant, Joseph Kabila, est confirmée pour jeudi. C'est ce qu'ont indiqué des sources dans l'entourage des deux camps. La cérémonie d'investiture du nouveau leader de la RDC est censée commencer à midi heure locale, 11h temps universel, au palais de la Nation de Kinshasa, siège de l'actuelle présidence. C'est la première passation pacifique du pouvoir d'un président à un autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge, proclamée dans ce même palais de la Nation le 30 juin 1960. Félix Tshisekedi, 55 ans, deviendra le cinquième président de la RDC, mais sa victoire à la présidentielle du 30 décembre n'est pas reconnue par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, qui s'autoproclame le président élu et dénonce ce qu'il appelle un putsch électoral du président sortant Joseph Kabila avec la complicité de Félix Tshisekedi. Après des hésitations, l'Union africaine et l'Union européenne ont indiqué dans un communiqué commun qu'elles étaient prêtes à travailler avec le président Tshisekedi et toutes les parties congolaises. Félix Tshisekedi devra choisir un premier ministre au sein de la majorité à l'Assemblée nationale, dominée par les proches du président Kabila. Au Soudan, pays secoué par une fronde sociale et en proie à une crise économique, retour au calme ce mercredi après les manifestations d'hier à Khartoum et à Omdurman, la ville jumelle de la capitale. Plus de détails avec Irénée Herman Ungo.
La police a usé du gaz lacrymogène hier pour disperser les manifestants. La première fois, c'était dans l'après-midi à Omdurman et la deuxième fois pendant une manifestation nocturne dans la même ville et à Khartoum, la capitale. Quasi quotidienne, les manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont vite transformées en rassemblement contre le pouvoir d'Omar el-Béchir. Lundi, l'association des professionnels soudanais a annoncé qu'un protestataire blessé lors des affrontements avec les forces de sécurité à Khartoum a succombé à ses blessures. Elle a appelé à se rassembler à nouveau demain jeudi dans toutes les villes et villages du Soudan. Selon un bilan officiel, il y a eu 26 morts, dont deux membres des forces de sécurité. Le président Omar el-Béchir a imputé ces violences à des conspirateurs sans les nommer. Il s'est rendu hier au Qatar à sa première visite à l'étranger depuis le début des manifestations.
Au Nigeria, le gouvernement nigérien a accordé une augmentation de 50% du salaire minimum après des mois de bras de fer avec les syndicats de travailleurs et aussi des menaces de grève. Le point avec Morgan Guiriek.
Au Nigeria, le salaire minimum est de 18 000 naira, un peu moins de 44 euros par mois. Le ministre du Travail, Chris Njige, affirme que la somme de 27 000 naira mensuelle a été approuvée après une réunion du Conseil national des États. Cet accord doit encore être ratifié par le Parlement. Il sera applicable au secteur privé et public et devra être révisé tous les 5 ans. Les entreprises employant moins de 25 personnes sont exemptées. Les syndicats, qui ont menacé à plusieurs reprises de paralyser le pays s'ils n'obtenaient pas un salaire minimum de 30 000 naira, n'ont pas encore réagi. En novembre dernier, les gouverneurs des États avaient rejeté un accord pour porter le salaire minimum à 30 000 naira, le qualifiant d'impraticable, à moins de réduire le nombre de fonctionnaires ou d'augmenter les fonds qui leur sont alloués par le gouvernement fédéral. De nombreux États n'ont pas payé leurs fonctionnaires depuis des mois, pointant du doigt le ralentissement économique qui a plombé le géant ouest-africain depuis 2016. Le pays se remet difficilement de la récession qui devrait voir son PIB augmenter de 2% en 2019 selon les estimations du Fonds monétaire international publiées lundi. Un chiffre revu à la baisse, les prévisions de croissance étant initialement de 2,3%.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Afrique de l'Ouest, toujours au Niger, le gouvernement a décidé de retourner dans le processus de litige international. l'initiative pour la transparence des industries extractives, dont il s'était retiré il y a peu plus d'un an. Selon notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, c'est le Premier ministre lui-même, Luigi Raffini, qui a annoncé cette décision mardi en marge d'un forum sur les enjeux et défis du secteur des industries extractives au Niger.
J'annonce solennellement la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'ITU international.
C'est en fin de l'année 2017 que les autorités mécontentes de la décision de suspension prononcée à l'encontre du pays par le conseil d'administration de l'ITE décident de retirer le Niger de ce processus qui est une norme internationale visant à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives. Plus d'une année après, elle se ravise à la grande satisfaction des organisations de la société civile actives dans le secteur des industries extractives. Ali Idrissa, coordonnateur du réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire routable.
Pour nous, ce n'est peut-être qu'une satisfaction morale de voir que le gouvernement nigérien a effectivement compris qu'il faut travailler dans ce processus et a souhaité réadhérer au processus. Nos attentes, c'est le travail. Ce n'est pas aujourd'hui par cette déclaration que le Niger est membre de l'ITU. Il y a tout un processus à mettre en œuvre.
Le processus, le Niger l'a déjà entamé, selon le Premier ministre Brigitte Raffini.
Le gouvernement a immédiatement entrepris la réforme du secrétariat permanent ayant abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif qui sera doté d'un personnel compétent et en nombre suffisant et d'un groupe multipartite de concertation où les différents acteurs, à savoir l'État, les industries extractives et la société civile, joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre de la norme ITE dans notre pays. Le nouveau dispositif institutionnel mettra également en place un plan de communication dynamique qui permettra notamment de diffuser le plus largement possible le rapport ITE.
Le conseil d'administration de l'ITE se réjouit de cette décision des autorités nigériennes selon son secrétaire exécutif adjoint Edmund Rich.
L'ITE se réjouit d'accueillir le Niger dès que possible dans la famille ITE. Le Niger est un pays important dans la famille ITE et nous espérons que l'ITE sera importante pour le Niger. L'année 2019 est une bonne année pour cette réintégration du Niger puisque l'ITE va organiser sa grande conférence mondiale à Paris au mois de juin. Et nous espérons que le Niger pourra officiellement revenir dans la famille ITE à cette occasion de cette grande conférence internationale.
Le Niger est l'un des grands producteurs d'uranium au monde. Il produit également de l'or et du pétrole. Depuis 2007 qu'il a adhéré à l'ITE, c'est seulement en 2011 qu'il a été jugé conforme à cette norme. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, la justice américaine a mis aux arrêts 3 jeunes gens d'origine africaine. Ils sont accusés de soutenir le terrorisme. Les précisions d'Idrissa Sedoudia.
3 Américains d'origine kényane ont été inculpés de conspiration en vue de soutenir le groupe État islamique après avoir été arrêtés dans un aéroport du Michigan ici aux États-Unis selon un document judiciaire déposé mardi devant un tribunal fédéral. Les 3 hommes, tous âgés d'une 20aine d'années et appartenant à la même famille, sont accusés d'avoir enregistré des vidéos dans lesquels ils prêtaient allégeance à l'organisation djihadiste et évoquaient une possible attaque aux États-Unis si l'un d'entre eux était empêché de voyager pour rejoindre cette organisation. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison, a précisé le ministère américain de la Justice.
Et pour terminer, le Sénat américain va tenter demain jeudi de s'accorder sur un texte mettant fin au shutdown, la fermeture partielle de l'administration fédérale faute de financement du Congrès, qui en est à son 33e jour. La proposition républicaine, qui assure un financement du gouvernement jusqu'en septembre, inclut notamment l'enveloppe pour le mur réclamée par le président Trump à la frontière du Mexique. Par contre, le texte de l'opposition démocrate, lui, n'évoque pas le budget pour le mur et propose la réouverture des administrations jusqu'au 8 février pour relancer le débat sur la sécurité aux frontières. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.